Vous avez remarqué l'évangile que nous venons d'entendre de l'évangéliste Luc. C'est un évangile qui, les événements se situent donc au soir même de Pâques. Hein, c'est le soir, à la fin de la journée du jour de Pâques, que cela s'est passé. Ce qui a fait dire à certains que peut-être les premiers chrétiens célébraient la messe, puisque ce n'était pas jour férié le dimanche à l'époque, célébraient la messe peut-être le dimanche soir, comme vous maintenant. Voilà. Mais ce n'est pas sûr, hein, ça fait partie des hypothèses. Donc, aucune preuve. En tout cas, voilà, c'est possible parce que vous l'avez remarqué, évidemment, cet évangile nous renvoie vraiment à l'Eucharistie directement, hein, nous oriente vers l'Eucharistie comme lieu de la présence du Christ ressuscité. Et ce qui est très beau dans cet évangile, alors je vous invite bien sûr à le méditer, c'est à voir comment la parole de Dieu peut être source de réconfort, hein, quand il est dit à la fin « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Tandis que quand on lit l'Écriture, on peut faire cette expérience du cœur brûlant, hein, on peut être enflammé de voir l'amour de Dieu. Hein, mais pour cela, il faut la fréquenter, cette Écriture, la Sainte Écriture, la Bible. Et puis aussi, donc, cette présence particulière du Christ, puisque les gestes que fait le Christ dans ce repas, au moment du repas, le geste qu'il fait, c'est typiquement les gestes de la Sainte Cène. Il prend le pain, le bénit, le rompit, le leur donne. C'est vraiment les gestes de l'Eucharistie. Et à ce moment-là, eh bien, il s'efface derrière le pain eucharistique. Jésus disparaît. Et c'est aussi une invitation à vénérer, à remercier le Seigneur déjà pour ce cadeau, mais aussi à reconnaître vraiment le don de Dieu dans l'Eucharistie. Cette présence du Christ, tellement forte finalement que le Christ, dans cette apparition, s'est effacé à ce moment-là. Et comme cette présence eucharistique suffisait pour les disciples, et là ils le reconnurent, et ensuite ils repartent, tous ailés, comme à la fin d'une messe, normalement, nous devons repartir chez nous pour annoncer le Christ est ressuscité, nous l'avons rencontré. Je voudrais aussi faire remarquer simplement la question de la notion de la foi dans cette démarche. Hein, vous avez ces disciples donc tout tristes parce que déçus. Hein, Jésus était dans un apparent échec, il était mort sur une croix, voilà 3 jours. Et donc ils étaient comme perdus. Et quand Jésus les rejoint, il les interroge, ce qui nous invite aussi, nous, à parler avec le Seigneur, à reconnaître la présence du ressuscité à nos côtés, il les interroge et il leur dit « Comme esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Et on pourrait dire aujourd'hui « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que l'Église vous transmet aujourd'hui. » Et cette interpellation du Seigneur, elle est quand même très surprenante. Il y a des points d'exclamation dans ce texte. Hein, comme le Seigneur qui dit, mais quand même, accueillez dans votre vie la foi dans le ressuscité, accueillez le Christ ressuscité, et donc ensuite Jésus explique les Écritures. À l'aide des Écritures, on peut le faire. Alors s'il y en a bien un qui dans sa vie a accueilli le Christ ressuscité et que ça a bouleversé sa vie, c'est certainement le bienheureux Henri Planchat. Hein, vous saviez que je devais y venir. Bienheureux Henri Planchat, donc, qui est né il y a 200 ans, puisque, alors moi je n'avais pas remarqué, mais on m'a fait remarquer, que le 8 novembre 1823, il est né donc à La Roche, ça va faire 200 ans, le 8 novembre prochain. Il y aura donc, je suis revenu dans mes bagages avec des festivités, il y aura donc quelques épisodes, un pèlerinage organisé ici, de Paris, organisé par les religieux de Saint-Vincent de Paul, et puis aussi le 8 novembre, possiblement une pièce de théâtre qui a été mise en place sur la vie d'Henri Planchat et d'autres choses. Voilà, mais ça je ne vais pas développer tout de suite. Je suis revenu avec 2 reliques hein, du bienheureux, puisque une des reliques va être déposée dans le futur hôtel qui va être placé de façon fixe, voilà, derrière moi. Un hôtel en pierre qui sera dédicacé d'ici quelques années. Et puis, une deuxième relique qui est là, qui sera là pour notre vénération, notre prière, pour que nous puissions nous recueillir devant. Alors voilà, c'est des os, petits morceaux d'os, et puis les cheveux et du sang. Voilà, qu'a-t-il fait ce bienheureux Henri Planchard? Eh bien, il est né à La Roche, il a été baptisé le 3 janvier 1824 dans l'église Saint-Hilaire, qui deviendra l'église Saint-Louis plus tard. Et puis, donc, son père était magistrat et ils vont donc pas rester longtemps à La Roche-sur-Yon, ils vont devoir repartir. Sa famille était très chrétienne. Il va faire ses études sur Paris, il va faire des études de droit à la demande de son père, parce qu'il voulait déjà rentrer au séminaire assez tôt, mais son père, voyant son immaturité, lui a demandé d'étudier, et de fait, ça a été très bénéfique pour lui, parce qu'il a gagné en humanité, et deviendra vraiment un homme à ce moment-là. Et en 1843, pendant ses études, il fait la rencontre de la Société Saint-Vincent de Paul fondée par Frédéric Ozanam. Vous avez tous entendu parler, qui existe toujours, il y en a à La Roche, hein, la Société Saint-Vincent de Paul existe à La Roche-sur-Yon, et il va y participer comme un jeune de son âge, hein, il a une vingtaine d'années, il va participer à cette œuvre et se mettre au service des pauvres, puisque c'est vraiment l'objet de cette œuvre. Et au cours de son activité, donc c'est sur Paris, il va rencontrer les fondateurs des frères de Saint-Vincent de Paul, la congrégation Saint-Vincent de Paul, puisque cette congrégation va être fondée par des gens qui seront engagés dans la Société Saint-Vincent de Paul, qui est une œuvre laïque, hein, fondée par le bienheureux Frédéric Ozanam, qui était un laïc, une œuvre laïque, et dedans, il y aura un certain nombre de personnes qui vont dire « mais nous, on veut donner notre vie pour les pauvres dans cette mouvance de la Société Saint-Vincent de Paul ». Ils vont fonder la congrégation. Et donc, le bienheureux Planchard va rencontrer cette jeune communauté qui se mettait au service des ouvriers, des pauvres et des jeunes. Et il n'y avait que des frères dans cette communauté à l'époque. C'était le début, il n'y avait que des frères. Il va demander à devenir prêtre après ses études de droit. Et là, son père ne s'y opposera pas. Il fera une démarche, figurez-vous, auprès du diocèse de Luçon. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas rentré chez nous. Toujours est-il qu'il rentre au séminaire de Saint-Sulpice, pour le diocèse de Paris, au final. Et le 21 décembre 1850, donc il a 27 ans, il est ordonné prêtre au séminaire, dans la chapelle du séminaire. Mais il a l'appel dans son cœur à se mettre au service des pauvres et l'appel à la vie religieuse. Et avec l'accord de son évêque, 3 jours plus tard, il rentre en tant que prêtre chez les frères de Saint-Vincent de Paul. Il sera donc le premier prêtre de la congrégation de Saint-Vincent de Paul. Et aujourd'hui, il y a plein de prêtres, j'en ai croisé un certain nombre hier. Et il va se mettre donc au service des pauvres dans les quartiers les plus pauvres de Paris. Et aussi, il va aller dans des quartiers, nous sommes dans une période un peu compliquée de notre pays, il va aller dans des quartiers où il y a beaucoup d'anticléricalisme, et il va apprendre, à la fois, il va aider ces pauvres gens en difficulté, et aussi leur apprendre à aimer Jésus, à aimer l'Église. Il va créer un patronage qui aura un certain succès. Ses frères non prêtres pour l'instant, eh bien, étaient assez surpris, étaient édifiés par la foi, la piété et l'esprit de prière et la pauvreté, la pénitence aussi de ce prêtre. On l'appellera, son œuvre était tellement efficace qu'on l'appellera le chasseur d'âmes sur Paris. C'est ce qui lui valut d'ailleurs d'être ensuite plus tard arrêté et fusillé. Parce que quand on n'est pas trop zélé, en général on est tranquille. Il va continuer à faire dans un autre patronage, dont je vous passe les détails, se dévoue au service de la jeunesse et des familles ouvrières. Il s'occupe de la formation des apprentis, de préparer les enfants à la première communion, il organise des retraites, il organise un groupe qui s'appelle le groupe de la Sainte Famille, pour aider les pauvres, mais aussi pour les instruire, et pour rassembler dans un esprit de famille tous ces milieux. Il va aussi beaucoup faciliter, pour un certain nombre de couples, la réception du sacrement de mariage, parce que beaucoup de ces lieux, de ces familles pauvres, ne pouvaient pas, même pas se marier, et ils étaient aussi en difficulté vis-à-vis de l'Église, et avaient du mal à faire la démarche. Donc il va aider tout cela, il va célébrer beaucoup de mariages. En 1870, donc vous savez, c'est le siège de Paris, et il met sur pied des ambulances pour se dévouer aux jeunes soldats qui étaient blessés, et il visite et soigne sur les champs de bataille. Il ouvre les portes de son patronage à tout le monde, et tout en continuant à trouver des moyens pour ouvrir les pauvres de son quartier, pour nourrir les pauvres de son quartier. C'est donc dans ce patronage, le patronage Sainte-Anne à Paris, que le jeudi saint, qui correspond exactement à la date de cette année, puisque c'était un 6 avril, le jeudi saint, 6 avril 1871, durant les événements de la Commune, il est arrêté et incarcéré. Alors, il agaçait énormément parce qu'il faisait aimer Jésus et l'Église, et il servait les pauvres, et ça n'allait pas dans le sens de ceux qui voulaient autre chose. Très flou ce que je dis, vous chercherez vous-même. Voilà. Il va être donc incarcéré pendant plusieurs semaines, et voilà ce qu'il va écrire dans sa prison. J'ai trois fois besoin de prier. Alors, il avait l'autorisation d'écrire des lettres qu'il envoyait. Et c'est comme ça qu'on a un certain nombre de lettres qu'il aura écrites dans sa prison. J'ai trois fois besoin de prière pour me tenir prêt à recevoir le coup de grâce qui peut venir et sans préavis. Hein, donc, il savait qu'il allait tuer. Pour me maintenir dans l'amitié de Dieu par le seul secours direct de sa grâce. Pour ne pas perdre le mérite de cette croix bénie envoyé par Dieu, hein, son incarcération et sa mort, pour mon bien et pour celui de mes chères ouailles. Nous avons pu nous confesser. Notre sacrifice est fait. Je ne suis pas triste. Je prie pour tous. Priez pour moi et pour tous les habitants de la prison. Voilà donc, après 40 jours de détention, avec ses compagnons de martyrs, ils seront conduits en cortège rue Axos, sous la huée de la foule, pour y être fusillés. Ce fut un véritable massacre. Alors pour la petite histoire, là, c'est au cours d'une fusillade en fait. Hein. C'était prévu qu'ils seraient tués, mais ça s'est déclenché dans la rue. Et en fait, la jeune femme militaire qui a déclenché la fusillade s'est convertie après, voyant ce qu'elle a vu. Après avoir reçu 7 balles, le père Planchat tomba à genoux et les yeux levés vers le ciel, il prononça ces derniers mots « Laissez-moi prier ». Un garde lui tira une dernière balle au front. Il mourut donc le 26 mai 1871 à l'âge de 47 ans. Donc il est fêté chaque année, il sera fêté chaque année dans notre diocèse et dans notre paroisse, tous les ans, le 26 mai, voilà, cette année. Voilà, donc il a été béatifié avec d'autres, hein, je parle plus de lui, ils étaient 5 à être béatifiés, mais comme il est né chez nous, c'est normal que nous le vénérions davantage. Voilà, que le bienheureux Henri Planchat nous aide, nous-mêmes, à grandir dans la foi, et une foi en acte. Amen.